les 11 en Mongolie par la famille Durie.
Est-ce qu'on prend le train? Qu'est-ce qu'on va manger dans le train? On va dormir où dans le train? Combien de temps on prend le train? Qu'est-ce qu'on va faire dans le train? Est-ce qu'on est bientôt en Mongolie?
On se trouve actuellement à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Oulan-Bator signifie « héros rouge » en mongol. De plus, c'est la capitale la plus froide au monde, avec une moyenne de moins 1,3 degrés Celsius par année, qui bat de loin Ottawa en 6e position et Moscou en 3e. Toutefois, avant d'en découvrir plus, on retourne sur nos récits dans le Transsibérien. J'ai ici avec moi Marc-Antoine. Finalement, Marc-Antoine, combien de temps ça a pris le train?
10 000.
6 000 km? Oui. À peu près. Combien de dodo?
5.
En ce moment, on est dans le Transsibérien. Dans 6 heures, on va aller en Mongolie, mais à la frontière mongolienne.
Daniel, pourrais-tu m'expliquer si ça fait longtemps qu'on est dans le train?
Ça fait déjà 5 jours qu'on est dans le train. On est embarqué mardi soir. Puis là, on est samedi matin. Donc, on a 100 heures de train en tout. Ils sont répartis en 5 jours. Puis on arrive demain matin à 6h30 en Mongolie.
Donc, c'est quoi le total d'heures qu'on avait à faire dans le train?
100.
Puis Marc-Antoine, pourrais-tu me décrire les cabines?
Ben, on a deux lits en haut, on peut les fermer. Puis on a deux lits en bas, on peut aussi les fermer, mais on peut mettre des bagages en dessous des lits.
OK, puis on a combien qui dorment dans chaque chambre?
4.
Et puis dans chaque wagon, il y a combien de chambres?
5.
Et puis il y a les toilettes où?
Au bout du wagon.
OK, puis y a-t-il d'autres wagons pour le train?
Oui, beaucoup.
Nous autres, on est dans le 15e wagon. C'est le dernier. Le train est dans 2 heures. On est chargé avec des sacs de hockey, remplis de sel et puis des sacs qui sont faits pour les chevaux. Et puis, on a un bus à prendre, plus un métro pour se rendre à la gare. Comment on a fait?
Bon, c'était un peu un casse-tête. En premier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Oleg, le monsieur chez qui on restait, de nous appeler des taxis. Pas pour nécessairement pour les personnes, mais au moins pour tous les bagages. Alors, Oleg, il nous a trouvé 2 taxis parce que les chauffeurs de taxi ici, ça ne parle pas anglais. Puis comment faire pour y expliquer quand on allait à la gare? C'était aussi un autre paire de manches. Donc, Oleg a tout fait ça pour nous. Il a appelé les taxis 3 heures d'avance par rapport à notre train. Donc, le premier taxi est arrivé pile à temps. On a mis le maximum de bagages qu'on a pu. Louis-Philippe, t'es embarqué avec Olivia et Charles. Le deuxième taxi est arrivé à peu près, 15 minutes en retard. On a embarqué, encore une fois, tous les bagages qu'on a pu. Finalement, il restait juste les sacs qu'on voulait garder avec nous, avec les objets plus précieux. Puis, il y a 3 jeunes qui sont embarqués, dont Marc-Antoine, Marie-Michel et Raphaël. Les autres, on partait en métro. Par contre, quand nous, on est arrivés, en fait, pas quand on est arrivé, mais quand on est venu pour partir, on a vu l'autobus au loin, on a raté le premier autobus. On s'est rendu donc, on a attendu une demi-heure pour l'autre autobus. Finalement, on a débarqué à la mauvaise station de métro. Il a fallu qu'on marche. Finalement, on est revenu sur nos pas, on a repris le métro. Et puis, on est arrivé, il était à peu près 8h15. Donc, heureusement qu'on s'était mis 3 heures d'avance parce que ça nous a pris déjà 2 heures pour se rendre. Mais juste comme on arrivait, le deuxième taxi arrivait à peu près en même temps. On était bien surpris. Puis c'est là que Louis-Philippe, tu nous as raconté que le deuxième taxi, ça ne savait pas tellement où est-ce qu'on allait. Il n'avait pas tellement compris à quelle gare on partait. Puis c'est toi qui as géré le coût qu'il voulait nous donner de façon que ça coûte plus cher Finalement, on est sorti à 8h30, on était tous là. Puis à 9h30, on prenait tous le train.
Une fois dans le train, comment on a divisé la famille dans les différentes cabines?
On a divisé la famille en trois. On avait loué donc trois cabines. La première cabine, c'était toi, Louis-Philippe, avec Olivia, ta copine. La deuxième cabine, c'était Jean-Christophe, Louis-Philippe. Non, Jean-Christophe, Raphaël, Marie-Pierre et Marie-Michel. Puis moi, j'étais dans la troisième cabine avec les trois plus jeunes. Donc Daniel, Charles et Marc-Antoine.
Mais les trois plus jeunes dans la même cabine, ça fait pas des étincelles?
Ah ben, j'avoue qu'au début, c'était pas trop drôle. Tu sais, quand on vient en promiscuité comme ça, c'est assez... des fois, c'est assez olé-olé. Les enfants, ça chicane tout le temps. Puis à un moment donné, j'avoue qu'ils se tiraient pas mal les cheveux. Mais plus ça allait dans les journées, plus ça allait bien. Puis plus les commentaires qu'on s'adressait étaient gentils puis qui étaient plutôt constructifs.
Toi, Marc-Antoine, t'arrachais les cheveux à qui?
Personne.
Dans ce cas-là, c'est qui t'attaquait, toi?
Ben, c'était les Mongoliens.
Les Mongols?
C'est pas les Mongoliens, c'est les Mongols. Parce que les Mongoliens, c'est ceux qui ont une maladie qui s'appelle la trisomie 21.
Écoute, Daniel, elle a raison. C'est quoi qui faisait les Mongols?
Ils me tiraient le chandail. Puis une fois, j'avais pas... Je revenais dans ma cabine. Puis il me tirait le chandail super beaucoup. Puis après, j'ai rentré dans ma cabine, mon cou, il était tout rouge.
Donc, moi, ça avait pas de l'air que tu chicanais avec eux autres. Je te voyais plus jouer à tag, puis à jouer avec les fusils, puis à t'amuser avec eux autres dans le corridor.
Oh, ça faisait longtemps.
Ah, OK. Toutefois, il y a quelque chose de magique dans le fait de voir défiler des milliers de kilomètres et puis les divers paysages sur plusieurs jours. De plus, on peut en profiter pour se divertir. Marie-Pierre est là pour m'en dire plus.
Ce qu'on faisait dans le train, ben... Il y avait plusieurs d'entre nous qui avaient amené une PSP. Comme moi, j'avais une PSP, Jean-Christophe, on a amené les laptops. Fait que, il y en avait qui jouaient aux cartes, ou sinon il y en avait qui jouaient à PSP, ou sinon qui dessinaient. Fait que, sinon, on se parlait, puis on faisait
la lecture
du train. Ouais, aussi la lecture.
Et puis pour les laptops, est-ce qu'il y avait des fils l'électricité dans le train, est-ce qu'elle était assez forte?
Elle était pas assez forte pour recharger les laptops, mais elle était assez forte pour recharger les PSP puis
les Kindle.
Puis les Kindle.
Exactement. Pour les cabines, puis peu importe la quantité de divertissement qu'on a apporté, ben essentiellement, on a fini par faire des rencontres hors du commun, comme Marc-Antoine nous a dit plus tôt, puis manger des mets typiques, puis admirer les paysages de l'Europe à l'Asie. Daniel, parle-moi donc des cabines.
Les cabines étaient divisées en... Ben, on pouvait rentrer à 4 personnes dedans, il y avait 4 lits. Et puis, il y avait une petite table à côté pour mettre notre manger, pour qu'on mange. Puis la première classe, il y avait 2 lits, un petit peu plus confortables, je suppose, avec une chaise et puis une douche privée.
OK. Puis nous autres, on a pris les cabines deuxième classe. Donc, c'est des petits endroits où est-ce qu'on est 4 par chambre. Puis on a pris ceux-là, justement, pour avoir les plus jeunes avec nous. Et puis, justement, comme Marc-Antoine vient de dire, on a partagé notre cabine au complet, puis ben, notre wagon au complet avec des Mongols.
Une chance, il y avait des portes à notre cabine.
Ouais. Marie-Pierre, toi, tu as eu des expériences assez spéciales avec les Mongols. Raconte-moi donc de ça. Avec les toilettes, tu as eu quelque chose?
Ah, avec les toilettes. Ben, disons qu'au début, les toilettes, c'était belles puis propres.
J'avais aussi vu des traces sur la bolle de toilette. Peux-tu m'expliquer c'était où l'origine des traces de souliers?
Il y avait des femmes, les Mongols, qui, à place de s'asseoir sur la bolle, se mettaient carrément dessus la bolle avec leurs pieds, puis ils se mettent en petit bonhomme pour faire pipi ou faire leurs besoins.
Et puis Marie-Michel aussi, elle avait une belle expérience avec les Mongols, mais pas dans le même type, un peu moins dans les toilettes.
Ouais, c'est ça. En fait, les enfants mongols, puisque les gars, ils avaient apporté leur console électronique, ils étaient beaucoup intéressés. Donc, ils restaient souvent, quand notre porte de cabine était ouverte, ils restaient souvent devant, puis ils regardaient nos grands frères jouer. Et genre, même à l'avant-dernière journée, ils étaient rendus dans notre cabine, assis à côté de Charles, en train de le regarder. Puis ils étaient, genre, assis sur le banc, sur notre banc, genre, de la cabine. Je trouvais ça très drôle.
Merci, Marie. Donc, on peut dire que le train, avec son ambiance apaisante, on peut piquer un somme de midi jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Dans ce cas-là, admirer les villes puis les villages de nuit, puis s'endormir le lendemain matin au lever du soleil. Jusqu'au point où les jours semblent se condenser en une seule et une longue aventure.
I'm not gonna lie.
Avec moi Charles et maman pour me dire plus sur le paysage qu'on a admiré dans le train. Maman, voudrais-tu commencer?
Quand on est parti de Moscou, on était en Europe. Quand on est arrivé à Oulan-Bator, on était maintenant en Asie. Donc, c'est comme si on avait traversé d'un continent à l'autre. Charles, est-ce que tu pourrais me décrire le paysage qu'on a eu en quittant Moscou?
Oui, le paysage en quittant Moscou, c'était plutôt beaucoup d'arbres, mais il était particulièrement petit. Et,
il y avait des bouleaux.
Oui, il y avait des bouleaux et des épineux. Les villages, ils étaient genre...
assez isolés.
Populés et assez isolés, oui. Les maisons étaient faites de bois et le toit en tôle. Il y avait les bordures de fenêtres qui étaient colorées, peinturées, avec des couleurs vives, avec les volets.
Oui, puis les volets aussi, c'était assez typique hein, de voir ces couleurs-là. C'est à peu près les seules couleurs qu'on voyait dans les villages. Est-ce qu'il y avait des routes?
Ben oui, il y avait des routes, mais pas des routes comme dans des villes. C'est des routes en garnottes ou en terre.
C'est ça. Puis après ça, quand on a quand même roulé pendant 6000 km ou à peu près, on a traversé, puis on a eu la frontière maintenant. Est-ce que tu peux me parler comment ça a été quand on a traversé la frontière de la Russie à la Mongolie?
Ouais, la frontière de la Russie, on a attendu 3 heures pour rentrer en Mongolie. Puis après ça, en Mongolie, il y avait encore une autre frontière de la Mongolie. Puis on a encore passé 3 heures là. Fait qu'en tout, on a passé 6 heures dans les frontières.
Oui, mais c'était assez confortable quand on passait la frontière parce qu'on était dans le train ou on pouvait même marcher. La première frontière, quand on était en Russie, on n'avait pas trop compris au début combien de temps on arrêtait. Ils sont venus chercher nos passeports. On leur a remis nos passeports. Puis après ça, on a vu tous les gens du train qui sortaient. Donc, nous aussi, on a sorti, puis on a été marcher un petit peu en bordure du train, en bordure de la gare. On a vu des vaches, tu te souviens?
Ouais.
Puis les vaches, il n'y avait même pas de clôture. Ils pouvaient se promener n'importe où. Ça nous avait frappé. Puis après ça, là, au bout de 3 heures, on a rembarqué dans le train. On a avancé à peu près à peine 5-10 minutes, peut-être même 15 minutes, tout au plus.
Puis là, on a refait le même scénario. Donc, les gens de la frontière sont venus chercher nos passeports. Et puis, on a encore attendu.
Mais ce moment, la frontière qu'on a faite pour de la Mongolie puis de la Russie, ça a été agréable, je dirais, pour ceux qui ont planifié d'aller aux toilettes avant d'arrêter. Puisque les toilettes ont été barrées l'entièreté du temps où est-ce qu'on était d'entre les deux...
Oui, ça, parle-moi-en pas. Les toilettes sont toujours barrées quand on est en arrêt sur le train parce que nos besoins, ils tombent direct sur la rail, ce qui n'est pas très agréable. Donc, quand on est dans les gares, ça ne peut pas tomber là. Donc, ils barrent les portes. Donc, pendant 6 heures, peut-être même 7 heures, les toilettes ont été fermées. Puis nous autres, les filles, ben, on n'avait pas prévu le coup. Donc, disons qu'il y en a qui ont souffert un peu. Ils avaient bien envie d'aller aux toilettes.
Mais sauf ce point-là, je dirais que ça a été super bien. Puis moi, justement, j'ai mangé mon repas pendant que mes visas et puis mes papiers se faisaient vérifier. Rarement fait une traversée des frontières aussi agréable que ça, surtout considérant que c'était la Russie.
Ah, tout à fait. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Ils ont à peine rentré dans notre cabine. Ils ont même pas ouvert nos bagages. Ils ont vérifié nos passeports. Ils sont partis, ils sont revenus. Puis c'était à peu près tout.
De plus, avec le voyagement, moi, ce qui m'a frappé beaucoup, ainsi qu'Olivia, qui est en Antarctique, c'est le fait que, même comparé à l'Antarctique ou l'Arctique, l'isolement des villages là-bas est incroyable. En voulant dire, on remarque aucune route qui se rend jusqu'au village. Et puis, c'est un village complètement isolé. C'est à peine si on voit les fils électriques qui rentrent. Et puis les bêtes se promènent, et puis...
Moi aussi, ça m'avait frappé. Puis même des bêtes, je dirais que les troupeaux, c'est pas comme les troupeaux qu'on a à Montréal ou sur la Rive-Sud. C'est des troupeaux de 2, 3, 5. Peut-être le plus gros troupeau qu'on a vu, c'était peut-être 5 vaches. 5 vaches en Russie.
Puis avec les grandes steppes, c'est un endroit vraiment, mais vraiment magnifique à voir.
Tout à fait. Tandis qu'en Mongolie, Charles, parle-moi donc maintenant qu'on a traversé la frontière. Comment c'était la Mongolie? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec la Russie?
Oui, il y a une grosse différence. La différence, c'est que la Mongolie, il y a plus de... Ben, au lointain, il y a juste des montagnes et un peu d'herbe dessus. Et c'est plutôt comme des plaines.
Oui, excellent. Puis, est-ce qu'on a vu des villages?
Pas vraiment, mais le seul genre de village qu'il y avait, c'était 2-3 yourtes. Et sinon, il y avait quelques maisons, mais j'en ai pas vu vraiment beaucoup.
Oui, puis moi, ce qui m'avait frappé aussi avec les yourtes, c'est qu'à côté de chaque yourte, il y avait soit un petit troupeau de chèvres, un petit troupeau de moutons, puis quelques chevaux, puis des chiens.
Mais ça qui m'a frappé beaucoup pour moi, le peuple mongol, même la capitale Ulaanbaatar, ce que j'ai appris, c'est que jusqu'à 3 fois par année, ils déplaçaient la ville entière. Donc la capitale de la Mongolie voyageait d'une place à l'autre. Donc on pourrait littéralement dire que c'était une ville nomadique. Et puis, ils se déplaçaient avec les yourtes, et puis les bâtiments complets, ils les défaisaient, puis ils reconstruisaient ailleurs, jusqu'à 3 fois par année.
Bien, le peuple mongol est encore un peuple très nomade.
Et puis, avec un des endroits les plus grands au monde et les plus isolés, c'était vraiment quelque chose à voir, les paysages à travers le train. Toutefois, le train pour nous, c'était que le début de l'aventure. L'excitation va commencer quand on va être à cheval, en Mongolie. Mais l'arrivée dans un nouveau pays, ça signifie s'habituer à plusieurs nouvelles choses. Dis-moi donc un peu sur la Mongolie, Charles.
Ben, la langue de la Mongolie, c'est le mongol et les dialectes mongols et un peu et du russe et un peu d'anglais.
Puis aussi un peu de turc.
Ouais, c'est vrai.
C'est quelle la monnaie qu'il y a en Mongolie?
La monnaie qu'il y a en Mongolie, c'est du tugrik.
Et tugride?
Ouais, tugrik. 1 $ du Canada, c'est 1 300 tugrik.
Donc. Oui. 1 $, c'est 1 300 tugriks.
Ouais.
J'étais bien impressionnée. D'ailleurs, la première fois que j'étais au guichet automatique, j'ai demandé 500 000 tugriks. Tu t'imagines, j'avais 500 000 dans mes poches.
Je suis d'accord avec maman. La première fois que j'ai retiré 200 000, je me sentais vraiment, vraiment riche. De plus, savais-tu qu'en Mongolie, il y a Genghis Khan, qui savait ni lire ni écrire, mais il a instauré le premier système d'écriture, le script mongolien.
C'est qui Genghis Khan?
On va en parler plus la semaine prochaine, Marc-Antoine. Maman, c'est quoi que tu penses de l'apparence des Mongols en général?
Ben moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée ici en Mongolie, premièrement à la gare, c'est de voir qu'il y avait soit les gens de la ville qui étaient habillés comme nous, ou bien on pouvait voir les gens de la campagne qui étaient habillés parfois en habit traditionnel avec une grosse bouteille. Ce qui me semble qu'il y a dedans, c'est du lait, c'est peut-être du thé au lait salé, je ne sais pas, je n'ai pas encore découvert. Et puis, il y avait aussi des fois l'habit traditionnel avec toutes les couleurs. Les hommes vont porter des bottes, un peu comme des bottes d'équitation noires, jusqu'à la mi-genou.
Moi, je me suis fait dire un conseil pour pouvoir différencier les Mongols puis les Chinois. me disait qu'il suffisait de regarder la ceinture. Si elle est située en dessous du ventre, on peut dire qu'il est chinois. Puis si elle est située sur le ventre, on peut dire qu'il est mongol.
Ouais, faudrait peut-être que tu vérifies ça. Peut-être que c'est le contraire aussi.
Ouais. Finalement, c'est peut-être les Chinois qui étaient sous le ventre, puis les Mongols qui étaient sur. Ah, je vais devoir vérifier ça une fois arrivé en Chine. Et puis, maman, pourrais-tu me dire un peu sur notre première journée en Mongolie?
Bien, quand on est arrivé en Mongolie, il a fallu tout d'abord nous trouver un endroit pour téléphoner au centre du Lotus d'un orphelinat où est-ce qu'on était supposé d'être accueillis pour dormir.
Mais ça, Jean-Christophe, on a parlé sur les numéros de téléphone.
Bien, là, il fallait trouver un téléphone en premier pour appeler au centre de Lotus, comme ma mère l'avait dit. Rendu, une fois qu'on avait trouvé le téléphone, la madame, elle a composé 6 numéros. Donc, moi, j'étais quand même surpris, là, parce que 6 numéros, ça fait pas beaucoup, beaucoup de possibilités de numéros de téléphone. Là. Ça fait approximativement 500 000 numéros de téléphone pour la capitale, pour probablement la Mongolie en entier. J'avais un peu de misère à le croire, mais c'était comme ça. Ça fait que j'ai... OK. Là, rendu au centre là-dessus, j'ai regardé sur Internet, puis j'ai vu qu'il y avait 175 000 lignes de téléphone. Ce qui est vraiment peu, là.
Au total, en Mongolie.
Au total, oui. Donc, comparé à la maison, qui est astronomique, ou astronomiquement plus qu'ici.
Il ne faut pas oublier non plus qu'ici, en Mongolie, c'est un peuple nomade. Donc, les gens viennent à la ville pour travailler, mais il y a encore au moins un tiers du peuple qui vit dans les yourtes en tant que nomade avec leurs troupeaux de chèvres, leurs troupeaux de moutons.
Une fois nos bagages déposés, maman, c'est où qu'on s'en va pour les visas?
Après qu'on ait déposé nos bagages au centre du Lotus, à la Guest House, c'est comme ça qu'ils financent d'ailleurs leur orphelinat, c'est avec la Guest House, puis ils accueillent des touristes. C'est des petites chambrettes à 2, 4, 6 ou 8. C'est très, très propre. Moi, ça m'a surpris. C'est très joli, c'est mignon comme tout. Il y a des voyageurs de partout. On a rencontré des Anglais, des Australiens, des gens qui font de la coopération, des gens qui travaillent pour... le SUCO, en tout cas, moi, ça m'a surpris.
Des universitaires qui font leurs études en géologie aussi.
Ou en archéologie. Donc, une fois qu'on s'est installé, qu'on a déposé nos bagages, la première chose que j'ai faite, ben, après avoir été chercher de l'argent, c'est que j'ai été chercher une épicerie. Donc, où est-ce qu'on pouvait acheter de la nourriture. Donc, on a découvert en premier l'épicerie, on a découvert comment on prenait l'autobus. Et puis, après ça, on a été faire nos visas. Donc, on avait un visa d'entrée de 30 jours, puis on avait le droit à extensionner notre visa pour un autre 30 jours. Donc, avec Jean-Christophe, on s'est rendu à l'aéroport une première fois pour aller chercher le formulaire. Et puis, ce matin, on était reporté le formulaire, puis on a obtenu nos visas. Ça a été assez facile, hein, Jean-Christophe? On n'a pas eu de pépins. Ça a été...
Oui, ça l'a très bien été, là, comparé à ce qu'on avait vécu pour la Russie. Là, les visas mongols, c'était quasiment une farce, là, comment c'était facile. Ça s'est tout fait tout seul, puis on avait besoin de payer, puis après ça, c'était tout.
C'est effectivement pas comparable, là. C'est vraiment facile. Ça prenait une lettre, par exemple, pour dire pourquoi on voulait rester en Mongolie. Puis la dame, elle nous a donné un papier et un crayon. Elle dit, écris la lettre, là. Elle dit, écris-la tout de suite, là. Dis 3-4 lignes, puis elle dit, ça va être beau. Fait que moi, j'ai fait la lettre, merci, bonjour, puis on a tout eu.
Donc, ça nous fait qu'on a encore 60 jours en Mongolie. Et puis, beaucoup d'aventures à vous rencontrer. C'est tout pour cette semaine, mais on se rencontre la semaine prochaine pour découvrir nos petites aventures et puis d'autres histoires. Et puis, comme Marc-Antoine a dit, on va prendre un peu sur Genghis Khan.
Puis, qu'est-ce qui nous attend? Ben surtout, là, on part en principe demain matin. Pour l'orphelinat, l'orphelinat du Lotus. Et puis, on s'en va à leur camp d'été. Donc, les enfants, il y a une centaine d'enfants qui vivent leurs vacances d'été dans des yourtes. Puis, on s'en va les rencontrer.
Merci beaucoup. Puis, à la semaine prochaine.
Bye.
Bye. Bye.
Au revoir. Мордхот жарочвий
Чагай шигэдэн адуу маннай адуу.